Petros Markaris, qui va être accompagné de Noémie Sauvage, que je remercie infiniment de se prêter à cet exercice. Ce n'est pas son métier. Noémie Sauvage travaille aux éditions du Seuil, qui est l'éditeur donc, de Petros Markaris. Merci beaucoup à vous.
Donc, hier, Michel Folkovic nous présentait Petros Markaris. Il est son traducteur. Petros Markaris a écrit 8 romans sociaux, des polars, dont les 3 derniers peuvent être réunis en une trilogie de la crise. Je vais vous les résumer brièvement. Donc, dans Liquidation à la grecque, ce sont des tracts qui recouvrent les murs d'Athènes et qui incitent les clients des banques à ne pas payer leurs emprunts, rembourser leurs emprunts, tandis que des puissants de la finance se font décapiter, rien que ça. Dans le second volume, enfin, chacun des volumes peuvent être lus, bien sûr, séparément. Donc, dans Le Justicier d'Athènes, ce sont les fraudeurs fiscaux qui ont tout intérêt à régulariser leur situation s'ils ne veulent pas être empoisonnés par de la ciguë. Ah oui, on rigole pas. Hein. Et donc c'est un justicier qui semble avoir trouvé une solution plutôt efficace pour rétablir les finances publiques, ce que l'État, lui, n'arrive pas vraiment. Et dans le dernier volume qui vient de sortir en mars, le tueur laisse des corps abattus au 9 mm cette fois-ci, avec le message « Pain, éducation, liberté », qui est le slogan des étudiants de l'école de Polytechnique qui ont précipité la chute des colonels il y a de ça 40 ans. Donc on voit que pour Petros Markaris, c'est le polar qui est le meilleur moyen d'observer la société. Tout ça avec une grande lucidité, pas mal d'humour et des scènes percutantes, comme vous avez pu le constater. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le commissaire, oui, j'ai oublié de préciser qu'on retrouve toujours le commissaire Caritos dans chacune des enquêtes, et il parvient toujours à se faire expliquer des notions économiques, des notions politiques, et nous-mêmes, nous comprenons tout cela facilement. C'est aussi une plongée dans les rues d'Athènes. On suit la vie quotidienne du commissaire et on voit une Athènes qui se vide, ses rues se vident, les voitures, les Athéniens n'ont plus assez d'argent pour se payer de l'essence. On voit aussi des magasins qui se ferment. Pour faire les courses, il faut toujours redoubler d'ingéniosité pour respecter son budget. Les jeunes pensent à partir, trouver de l'emploi ailleurs. Et il y a aussi des suicides qui se multiplient. Donc Petros Markaris a commencé à écrire du théâtre. Et ça, on le retrouve dans la vivacité des dialogues. Il est co-scénariste. Certains d'entre vous ont pu voir un film hier auquel Petros Markaris a contribué. Je voulais vous demander en quoi votre expérience de dramaturge, de co-scénariste, vous aide à construire, à écrire vos polars.
Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà. Avec Théo Angelopoulos, c'était une amitié qui a duré pendant 4 ans, jusqu'à son mort. Et puis, quand... C'était pas une collaboration, disons, pacifique. On a eu des tendances, on a eu des tensions, excusez-moi, entre nous. Et chaque fois qu'il a été désespéré avec moi, il me disait, nous sommes des amis pendant 40 ans. Nous avons collaboré dans plusieurs scénarios. Tu n'as rien appris sur le cinéma de moi. Et ma réponse était toujours, oui, tu as raison, mais tu sais, j'ai besoin tellement du temps pour corriger tes scénarios médiocres qu'il n'a pas resté du temps pour d'apprendre sur le cinéma, quelque chose sur le cinéma. C'était, il a raconté cette histoire à Venise, quand nous étions ensemble parler de notre collaboration. Alors, je disais, c'est pas vrai, vous savez, parce que j'ai appris deux choses grâce à ma collaboration avec Theo Angelopoulos. Quand je commence un nouveau roman, je n'ai pas besoin de savoir toute l'histoire, l'histoire entière du roman. Je découvre le roman d'un chapitre à l'autre pendant le travail. Mais j'ai besoin d'une image du début. Comment le roman va commencer? Quelle est l'image initiale? Et ça vient du cinéma. Parce que n'importe avec combien de régisseurs j'ai travaillé, c'est toujours la même question. L'image au début. Alors, j'ai appris ça et je l'ai transféré dans mes romans. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que les chapitres de mes romans ne sont pas des chapitres au sens littéraire, mais plutôt des plans-séquences. Alors, ça vient aussi du cinéma, et spécialement du cinéma d'Angelopoulos.
Oui, d'ailleurs, on voit bien dans Le Justicier d'Athènes, qui commence très fort par une image donc percutante de ces quatre retraités qui choisissent de se suicider parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer à vivre avec leur maigre pension. Donc on voit bien ça.
Il y a une tradition en Allemagne, la tradition de lecture de la part d'écrivains. Quand on fait une présentation du livre en Allemagne, il faut que l'auteur lit de ses romans. Alors, je commence toujours la lecture avec le premier chapitre, sauf avec le chapitre du deuxième roman de la crise du Justicier. Je n'aime pas lire ce chapitre avec le quadruple suicide. C'est très triste et j'évite de le lire.
Vous avez aussi été traducteur, notamment de Goethe, de Brecht.
Ouais.
On voit l'importance du dictionnaire, puisque le commissaire se reporte régulièrement à son dictionnaire, le Dimitrakos. Il y cherche les définitions et du sens, des réponses aussi, des indices qui pourraient lui donner des idées, des nouvelles pistes lors de ses enquêtes. Hier, Michel Volkovitch nous parlait d'entretiens qu'il avait réalisés avec certains auteurs grecs et qui lui disaient que pendant la crise, peut-être que c'était le langage qui avait le plus souffert. Est-ce que pour vous, c'est important de vous reporter toujours à la définition précise des mots? Est-ce qu'ils perdent du sens ou est-ce qu'au contraire, pour vous, ils redonnent sens à la réalité?
Bon, alors, le langage et la crise, je crois que le problème principal en Grèce, c'est un déficit d'éducation. Ce qui souffre, c'est l'éducation en Grèce. Et c'est un grand problème. Alors, la langue est toujours liée à l'éducation. Alors, la langue souffre parce que l'éducation souffre. Parce que, disons, l'utilisation de la langue en Grèce est toujours dans les mains, disons, des médias, primaires. En ce qui concerne le dictionnaire de Dimitrakos, le dictionnaire classique de la langue grecque. Et même aujourd'hui, il est, à mon avis, le dictionnaire le plus important et le plus complet. Bon, quand j'ai créé le caractère, quand j'ai trouvé, les différence spéciale du caractère ou les conditions de sa vie quotidienne. Je me disais, il faut trouver quelque chose qui n'appartient pas au policier, normal. Et parce que, comme vous avez dit, je suis un traducteur, j'étais un traducteur pendant toute ma vie, pendant ma vie entière, et j'ai traduit de l'allemand Brecht, Goethe, Wedekind, Weiss, Schnitzler, beaucoup des auteurs. Alors, j'aime les dictionnaires, j'ai une relation très spéciale avec les dictionnaires. Michel connaît ça. Et alors je me disais, les dictionnaires, mais comment un policier tout à fait normal utilise les dictionnaires? C'est commencé avec, disons, une caractéristique particulière, mais maintenant il s'est développé d'un roman à l'autre. Et on est arrivé avec Caritos dans une condition où, quand il a des problèmes avec son travail, avec les gens, avec la politique, il utilise toujours le dictionnaire de Dimitrakos pour trouver des réponses. Et surtout dans mes romans sur la crise qui a utilisé beaucoup le dictionnaire pour trouver des réponses.
Dans la première partie de votre réponse, vous parliez des médias.
Oui.
Et les journalistes ponctuent les enquêtes en s'attroupant devant le bureau du commissaire. Je me demandais quels sont leurs pouvoirs, quel est le pouvoir des médias.
Caritos a une relation, très difficile, je pourrais aussi dire mauvaise, avec les journalistes. Il y a une exception, c'est Sotiropoulos. Sotiropoulos, c'est un vieux journaliste qui vient de la gauche, qui est un homme pas tellement sympathique, mais il a une pensée qui est très productive. Il a des idées qui sont, même pour le commissaire, disons, très importantes. Et alors, il s'est développé une relation entre les deux, qui est une relation très étroite. On le trouvera même plus dans mon prochain roman. C'est Sotiropoulos, c'est l'exception. Tout les autres journalistes qui se trouvent devant son bureau, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Il est toujours énervé quand il rencontre les journalistes. Et il y a surtout les journalistes de la télé. Une journaliste de la télé me disait, « Monsieur Marquez, vous ne l'aimez pas, nous les journalistes. » Il dit, « C'est pas vrai, j'aime les journalistes de la presse, je n'aime pas les journalistes de la télévision. » Ça, c'est la différence.
Il y a un personnage qui est aussi récurrent dans les enquêtes du commissaire, c'est son épouse, Andriani. Elle assène régulièrement des sentences tranchées. Son signe particulier, dit Caritos, est le bon sens.
Naomi, vous aimez Andriani?
Ah, j'aime beaucoup Andriani.
Ah oui, alors vous aimerez aussi ma mère, vous savez, parce qu'elle est identique avec ma mère.
J'en suis sûre, oui.
Ça s'est commencé avec Tomate Farsi, et maintenant, ah oui. Parce que ma mère faisait des tomates farcies formidables. Et c'était toujours une petite pièce de théâtre entre ma mère et ma fille. Qui dit, grand-mère, je t'en prie, fais des tomates farcies. Alors, ma mère était une diva. Non, je ne peux pas faire, c'est trop fatigant. Je suis vieille, maintenant je ne... C'est impossible. Et ma fille insistait jusqu'au moment où ma mère disait, écoute, je vais faire des tomates farcies, mais c'est la dernière fois. C'était jamais la dernière fois, mais elle disait toujours la dernière fois. Bon, alors, c'est commencé comme ça, et le développement du caractère avec ma mère, c'est commencé avec le troisième roman, Lucie s'est suicidé. Au début de ce roman, il y a une scène où Jarito se trouve dans une vacances de reconvalescence, ou comme ça, comment on dit ça en français?
Une maison de repos, oui.
Mm-hmm. Et il est assis sur une banque dans un petit parc, et il regarde un chat envers lui. Et Adriani est à côté, il a pris le contrôle de sa vie. Avec les femmes qui n'ont pas un travail, qui sont des femmes de famille, le moment le plus important et le plus heureux de leur vie est quand le mari est malade. Alors, ils peuvent prendre le contrôle sur la vie du mari et ils sont vraiment très heureuses. C'est le cas avec Adriani. Et ça, quand ma sœur a lu le roman, il m'a appelé, il me disait, tu sais, c'est Adriani, c'est comme notre mère. Elle nous a terrorisés quand nous étions malades. Voilà. Et à partir de ça, j'ai commencé de rapprocher Adriani à ma mère jusqu'au point qu'ils sont devenus identiques.
Et puis peut-être que c'est aussi une tradition de parler de la cuisine dans les polars.
C'est une grande question, le polar dans la cuisine. Le polar dans la cuisine, dans le polar méditerranéen. Ce n'est pas seulement Adriani. C'est Manuel Vázquez Montalbán et Pepe Carvalho. C'est Camilleri et le commissaire Montalbano. C'est Jean-Claude Dizon et Marseille. Bon, alors, s'il y a, une tradition dans le roman polar méditerranéen qui se dirige vers la cuisine. Je crois qu'il y a des raisons sociales pour ça. Avant de dire ça, je dois remarquer que je suis totalement fatigué de lire des romans du polar du Nord, des romans scandinaviens, avec ces commissaires qui boivent de la bière et des sandwichs et des pizzas. Alors, je ne supporte plus ça. Mais avec le roman polar méditerranéen, je crois qu'il y a un point de vue social. Dans le Nord, disons, l'émancipation des femmes est arrivée beaucoup plus tôt. Alors les femmes, elles ont quitté la maison, elles ont allé travailler. Ça, c'était bon pour les femmes, mal pour la cuisine. Dans la Méditerranée, c'était le contraire. Les femmes ont resté beaucoup plus longuement dans la maison et l'émancipation s'est retardée. Alors, c'était bon pour la cuisine, mal pour les femmes. Mais il y a maintenant une tradition dans le roman méditerranéen, polar méditerranéen, entre le roman et la cuisine. Et j'aime beaucoup ça, il faut le dire. J'aime beaucoup quand Montalbano dit à son équipe, écoutez, c'est très urgent, il faut réagir maintenant, il ne faut pas perdre du temps, mais on va manger plutôt et après. Je trouve ça extrêmement intéressant.
Et puis la cuisine, c'est aussi le moyen de réunir la famille. C'est un thème très important dans vos policiers. Ils permettent aussi de réunir...
Vous savez, ouais. J'ai eu de chance avec le commissaire. Parce que le commissaire n'est pas une... n'est pas une création à moi. J'ai travaillé il y a pas au début des années 1990, j'écrivais les scénarios d'une série télévisée qui a eu un grand succès à Grèce. La série s'appelait Anatomie d'un crime. La série était produite pendant 3 ans. Au début de la 3e année, j'étais totalement épuisé parce que j'avais déjà écrit à peu près 70 scénarios. Alors j'ai appelé le directeur du programme de la chaîne et je disais, tu m'excuses, mais je suis épuisé, j'arrête. Sa réponse était, tu es fou, toi. Tu gagnes beaucoup d'argent, c'était vrai. Nous sommes des gagnants aussi parce que la série est un grand succès. Alors, pourquoi devons-nous arrêter? C'est parce que je suis épuisé. C'est pas important, il me dit, tu vas continuer. Alors, je disais, parce que j'ai... Comme tous les gens, moi aussi, j'avais besoin d'argent, vous savez, de gagner d'argent. Alors, c'est, je continue. Quand je suis recommencé à écrire, soudainement, un beau jour, j'ai vu 3 personnes devant ma table de travail. Un homme, une femme et un enfant. À ce moment, je ne savais pas que l'enfant était une fille. Une famille typiquement grecque, petite bourgeoise. Première réaction était tout à fait négative. J'ai assez avec les petits bourgeois grecs, j'ai déjà écrit des scénarios avec des petits bourgeois grecs, ça me suffit. Mais l'homme était très persistant. Il ne quittait jamais mon endroit de travail, ma chambre. Il était toujours, tous les matins là. Et ça, c'est devenu une torture pour moi parce que je ne pouvais pas travailler. Jusqu'au moment qu'un beau jour, je me disais, si cet homme me torture comme ça, il peut être ou un flic ou un dentiste. Je m'excuse s'il y a dentiste et dentiste entre vous, mais c'était la vérité. Ou un flic ou un dentiste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dentiste hein, comme caractère? Mais un flic, quand je savais que l'homme était un flic, je savais ce prénom, ce nom, le nom de sa femme, je savais que l'enfant était une fille et qu'elle s'appelait Katerina. C'est comme ça. Comme Haritos est venu me visiter avec sa famille entière. Et je suis, disons, privilégié parce que, la majorité des policiers sont des petits bourgeois avec une famille. Et je m'étonne pourquoi, dans le roman polar, la majorité sont des flics ou des détectives. Seul, je ne comprends pas pourquoi. Mais chez moi, c'était la chance.
Et on constate aussi que la famille est le théâtre de tensions entre les générations, entre des aînés qui détiennent le capital et puis des jeunes qui recherchent du travail, notamment à l'étranger.
Vous savez, j'habite un pays où le chômage des jeunes à 60%. Le chômage des jeunes en Grèce, c'est 60%. Alors, c'est normal que ces jeunes gens ont des problèmes, pas seulement avec l'économie ou, disons, la politique, mais dans la famille aussi. C'est une situation grave et c'est une situation dangereuse. Heureusement, il y a, disons, à partir de 2012, vers la fin de 2012, un groupe qui s'agrandit, des jeunes qui ont décidé de rester et de lutter. C'est le pas positif en Grèce. Parce que maintenant, il y a une génération, des gens qui cherchent de trouver des moyens de travailler en Grèce. Au début, c'était quitter le pays. On quitte toujours, mais il y a aussi, disons, une autre partie qui reste. Et c'est très encourageant.
Je vais lire une citation de Andriani dans le dernier volume, Pain, Éducation et Liberté. Elle dit « Nous haïssons les Allemands et quelques autres nous haïssent, nous haïssons les immigrés et voulons les chasser, mais eux ne sont pas venus en Europe, nous les avons enfermés en Grèce et ils nous haïssent. Ce qui nous est encore épargné par la haine, c'est la famille. »
Oui, la haine en Europe, c'est un grand problème. Vous savez, moi, je voyage très souvent. Je suis très souvent, pas seulement en Allemagne, mais en Italie, mais en Espagne aussi. Et je vois la haine. J'étais en Espagne, à Palma de Mallorca, début de 2013. Non, excusez-moi, l'été de 2013. J'ai un ami, un écrivain espagnol, on se connaît depuis des années, et il est venu à Mallorca, on se racontait dans un café, c'était « Lorenzo, ça va avec toi ?»« Oui, et toi ?»« Ça va, je disais. »« Tu as encore des liens avec les Allemands ?» Il me demandait. « Tu visites encore l'Allemagne et tu parles l'allemand ?» Je disais « Oui. » Et il me disait « Je ne peux pas supporter l'idée que quand j'étais jeune, j'ai essayé d'apprendre l'allemand. » C'est la même chose en Italie, vous savez. Et si on voit toujours, aujourd'hui, un peu partout en Europe, disons, l'extrême droite s'augmenter, c'est parce que aussi que la haine est devenu une caractéristique dans l'Europe. Et c'est très grave. Il n'y a pas une force qui peut créer un équilibre. Vous savez, j'étais à Hambourg il y a un mois maintenant. Et un Allemand m'a posé la question, il me disait, Monsieur Markaris, c'est pourquoi que les Grecs se sentent toujours des victimes? Je disais, parce qu'ils ont subi une guerre civile. Après la guerre civile, tout le monde se sent une victime. Vous pouvez demander les Espagnols, c'est la même chose. Mais il faut comprendre ça. Et pour comprendre ça, il faut accepter que en ce qui concerne l'Europe, ce n'est pas seulement l'économie, mais aussi la politique, mais surtout la culture. Et on oublie la culture. C'est un grand problème avec la culture en Europe. On parle toujours et seulement de l'économie. Il n'y a pas un discours politique en Europe, il n'y a pas un discours culturel en Europe, il y a seulement un discours économique. Alors, on voit ce qui se passe.
Mais vos romans ont un succès en Allemagne, donc peut-être qu'il y a une conciliation dans la culture européenne.
Bon, il y a aussi des écrivains français qui ont un succès en Allemagne. Il y a aussi des écrivains allemands qui ont un succès en France ou en Grèce. Ce n'est pas ça, c'est toujours la notion de la culture et l'importance de la culture de l'Europe. Vous savez, j'ai déjà un jour aux Allemands, la culture est un plat principal qui est servi par la politique comme dessert. Alors, avec le dessert, le problème est que où vous avez mangé tôt, vous disiez, je ne veux pas de dessert, un petit café s'il vous plaît. Où il y a la crise, où on dit, oubliez le dessert, il faut sauver la soupe. Bon, mais la culture est la soupe aussi, vous savez. Et c'est la grande erreur en Europe.
Il y a aussi un personnage qui est toujours en toile de fond, c'est Athènes. Le commissaire arpente les rues avec sa vieille Fiat, qu'il finit par reléguer au garage pour prendre les transports en commun. On a d'ailleurs envie de prendre une carte d'Athènes et de tracer tous les parcours pour découvrir cette ville. En quoi c'est un personnage vraiment principal ?
Oui, mais aussi, c'est la ville dans le roman policier. Ce n'est pas seulement Athènes. C'est la Barcelone de Montalban. C'est la Marseille de Jean-Claude Dizon. C'est un peu partout la même chose avec le roman polar. Il y a le roman polar contemporain, c'est un roman de ville. Et où la ville est une des protagonistes du roman. C'est la même chose avec Athènes. La différence avec moi et peut-être que Jean-Claude Dizon était un Marseillais. Moi, je ne suis pas un Athénien au sens strict parce que je suis né à Istanbul. J'ai fait mes études secondaires à Istanbul. J'ai quitté la ville quand j'avais 23 ans et je suis allé à Vienne. Et je suis venu à Athènes en 1964. Alors, je suis un émigré à Athènes. Mais j'aime la ville beaucoup. J'habite là il y a 50 ans maintenant. Je connais la ville. J'aime la ville et j'aime les contradictions d'Athènes. Athènes est une ville avec beaucoup de contradictions. Et c'est la réalité fascinante d'une ville avec qui est plein de contradictions. J'aime ces contradictions beaucoup. Et j'essaie de inclure dans mes romans ou de faire un narratif de ces contradictions dans le roman. C'est toujours l'amour pour la ville. J'aime la ville, c'est toujours une relation envers la ville qui ont tous les Athéniens, une relation entre la haine et l'amour. C'est la ville qui produit ça. Vous savez, on ouvre la fenêtre chaque matin, on voit le soleil, on se dit, oh mon Dieu, c'est formidable à Athènes avec le soleil. On quitte la maison, on est dans la rue, c'est le trafic, c'est tout est énervant. On dit, cette merde d'Athènes. C'est comme ça. C'est toujours la même chose et avec plusieurs, différentes réalités dans la ville. Et toutes ces réalités sont contradictoires. J'aime ça. Je n'aime pas les villes qui sont tellement, harmoniques, comme Munich, peut-être. Après avoir visité deux fois Munich, je ne suis pas intéressé.
Je voulais reparler du justicier d'Athènes Et donc, je disais que le meurtrier arrive à renflouer les caisses de l'État. Les fraudeurs fiscaux régularisent leur situation. Est-ce que vous pensez qu'un homme providentiel peut résoudre les problèmes? On a vu ces derniers temps, enfin très récemment.
Les Grecs aiment le roman aussi, parce qu'il y a un homme qui, disons, est capable ou de recevoir ou de faire les gens payer les impôts ou il les tue dans une manière très noble, mais quand même. je trouve cette alternative très dangereuse dans la vie. Il y a un principe, c'est l'État qui doit faire ça. Parce que si l'État manque les moyens ou ne veut pas utiliser les moyens de faire son boulot, il y aura toujours des gens qui veulent essayer ou prendre la justice à leurs mains. Et c'est très mauvais, ça. C'est très dangereux. Je ne suis pas avec le meurtrier et le tueur. Je pense que c'est une alternative qui est dangereuse pour la société. Quand même, les gens sont très heureux. Pas les victimes, mais les autres.
Je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. Vous les proposez.
Alors, les 5 minutes, comme je dis. Vous n'avez pas posé une question, mais à peu près 10. Bon, en première, L'empoisonneuse d'Istanbul. L'empoisonneuse d'Istanbul est un roman autobiographique. Parce que l'empoisonneuse elle-même, parce que je peux le dire, on connaît l'empoisonneuse dès que le début du roman, était notre gouvernante. Elle a son nom propre dans le roman, Maria Hambu. Elle s'appelait Maria Hambu. Et nous, elle a vécu avec nous pendant 30 ans, peut-être. Alors, quand je commençais à écrire, je voulais écrire un roman, c'était toujours, disons, le passé, c'était toujours mon mémoire, ce que je faisais à Istanbul. C'était un roman très difficile à écrire. Et je trouvais la solution, je savais comment l'écrire quand je trouvais le personnage de l'empoisonneuse et que je constatais que l'empoisonneuse était la femme que je connais tellement bon, Maria. En ce qui concerne la communauté, je suis un enfant d'une famille mixte. Mon père était arménien, ma mère était grecque. Mais ma vie était, comment on dit, totalement destiné ou concentré dans la communauté grecque. Je suis un Arménien qui a vécu d'une famille totalement grécisée. Ma mère était grecque, ma langue maternelle était grecque, et je ne parle pas l'arménien. Alors, je suis agrandi dans la communauté grecque d'Istanbul. Je connais la communauté grecque d'Istanbul, la minorité grecque d'Istanbul. Et pendant une période où le nationalisme turc était grave et très agressif. Alors, je connais la situation, la réalité. Et je connais aussi, comme je connais aussi maintenant, aujourd'hui aussi, la réalité de la minorité arménienne à Istanbul. Mais je connais, disons, les blessures qu'ont subi ces gens, les Grecs. Il était pire encore avec les Arméniens. Et comment ils ont quitté enfin la ville. Et la grande douleur de quitter la ville. Alors, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'est passé à partir du destin de cette empoisonneuse Maria. Ça, c'est un point de vue dans le roman. Il y a un deuxième point de vue dans le roman, et c'est collaboration entre Murat, le commissaire turc, et Haritos, le commissaire grec. Ça commence avec une grande position réservée du point de vue de la part du commissaire grec et de la part du commissaire turc, parce que c'est comme ça. Vous savez, il n'y a pas une amitié soudaine entre un Grec et un Turc. On doit travailler et trouver un autre pour fonder une amitié. Mais la réconciliation, c'est un point dans tous mes romans. Il y a une réconciliation entre le communiste Lambrosicis et le policier. Vous savez, j'ai parlé de la guerre civile. Alors, après la guerre civile, dans les années après la guerre civile en Grèce, c'était tout à fait impossible d'avoir une amitié entre un policier et un communiste. C'était tout à fait impossible. Et en créant cette amitié, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a toujours, une possibilité de réconciliation. Et on fait travailler. Maintenant, Zizis a commencé à respecter Haritos parce qu'il était, il se portait vraiment très bonne quand Zizis était dans la sécurité et il a été interrogé. Après, c'était une amitié distanciée. Maintenant, Lambros est parti de la famille du commissaire. Parce qu'il y a toujours, c'est pour ça que j'ai la haine. Je connais même en Grèce la haine. J'ai vu la haine en Espagne après la guerre civile. La haine, ce n'est pas une solution. Il faut toujours travailler ou essayer la réconciliation. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans le roman d'Istanbul et dans la relation entre Haritos, Zizis et la famille maintenant. Ça a commencé avec la relation entre Haritos et Zizis, puis c'était la fille Katerina qui a fait la connaissance de Zizis, et la dernière était Adriani. Maintenant, Zizis est parti de la famille du commissaire. il y a toujours la possibilité d'une réconciliation. Mais il faut travailler, ce n'est pas facile.
Voilà une bonne conclusion également, comme ce matin. On va écouter un extrait donc du dernier volume de la trilogie de la crise, Pain, éducation, liberté.
Terreur, non féminin. 1. Peur extrême qui bouleverse, paralyse. 2. Régime politique fondé sur le recours à des mesures propres à terroriser la population. Terreur rouge, imposée à la bourgeoisie par un gouvernement révolutionnaire. Terreur blanche, imposée par la classe bourgeoise détenant le pouvoir. Mon dictionnaire me déçoit encore. Pas un mot sur les terroristes. Dimitrakos, à son époque, il est vrai, n'a pas connu ceux du 17 novembre ou de lutte révolutionnaire. Quant à la terreur blanche, nous n'en avons plus, à moins de nommer ainsi cette menace continuelle d'une nouvelle coupe dans les salaires et les retraites. Telles sont mes pensées tandis que j'entre dans la cuisine pour mon premier café de la journée. Le second, je le prends au bureau. Je trouve Adriani habillé pour sortir et je m'étonne. Sortir si tôt n'est pas dans ses habitudes. Je vais au marché acheter du poisson, anchois ou sardines, pour les cuire au four avec une sauce citron. Elle ne fréquente plus le poissonnier du coin, trop cher à son avis, et dont les poissons ne sont pas frais mais humidifiés. Et tu as besoin d'y aller aux aurores. Elle me gratifie de son regard supérieur, celui qu'elle arbore pour me clouer le bec. Mon chéri, la dernière fois que tu as fait les courses, tu étais à l'école de police. Les meilleurs poissons au marché, tu les trouves tôt le matin. Plus tard, on n'a plus rien de bon. J'abandonne cette discussion où j'aurai sûrement le dessous. Je propose à Adriani de l'emmener jusqu'à la station du trolley dans l'avenue Vassilissis Sofias. Tu as regardé la télé hier soir ? Lui dis-je dans la voiture. Je ne peux plus. Toute cette haine, voilà où nous en sommes. Haïssons-nous les uns les autres. Tu exagères. Tu crois ça ? Nous haïssons les Allemands et quelques autres nous haïssent, nous haïssons les immigrés et voulons les chasser, mais eux ne sont pas venus pour rester chez nous, ils veulent aller ailleurs, en Europe. Nous les avons enfermés en Grèce et ils nous haïssent. Ce qui est encore épargné par la haine, c'est la famille. Je me retiens pour ne pas lui raconter l'histoire de Demertis qui ruinerait ses dernières illusions, je la laisse devant le Hilton. Finalement, dit-elle, ce n'est pas difficile d'aller à ton bureau par les transports en commun. C'est vrai, il suffit de prendre le trolley à Evangelismos. Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Pour vous autres, c'est gratuit. Est-ce raisonnable de gaspiller l'essence par les temps qui courent ? Et elle descend de la Seat, me laissant seule à ruminer l'idée jusqu'au bureau. En fait, elle n'a pas tort. Quand on ne sait pas quand on sera payé, la voiture devient un luxe. D'un autre côté, ce n'est pas facile de quitter d'un coup ses habitudes. La Mirafiori que j'avais pourtant achetée d'occasion m'a emmené au boulot pendant 30 ans. Mon étage rajouté, comme dit Fanis, c'est la Seat. La maison tient encore, mais on ne sait jamais. À peine arrivé, j'appelle Dimitriou, en partie pour savoir où en est l'enquête de l'identité judiciaire, en partie pour oublier le cas de conscience infligé par Adriani. On a quelque chose, monsieur le commissaire, mais on ne sait pas encore où ça peut nous mener. La voiture de Demertis ? Non, de ce côté-là, on n'a rien trouvé. Mais dans son portable personnel, il y a un appel entrant venu d'un portable auquel il n'a pas répondu et dont le numéro ne revient pas. Tous les autres appels entrant ou sortant sont professionnels ou familiaux. Nous avons contacté le fournisseur d'accès et nous vous préviendrons dès qu'il aura répondu. Je passe dans le bureau d'à côté. Koula est collé à l'écran, Papadakis range des dossiers, Vlasopoulos et Dermitsakis sont invisibles. Ils sont retournés à Paléophaliro, les recherches d'hier n'ont rien donné. Nous cherchons une aiguille dans une botte de foin. La zone autour du centre olympique est l'une des plus fréquentées. Le type qui a téléphoné a pu s'installer dans un café, une voiture, et appeler en nous voyant arriver près du corps. Pour le repérer, on peut toujours courir. Prévenez la prison de Korydallos que je vais venir interroger Kyriakos Demertis. Papadakis, demande une voiture et prépare-toi. Il me jette un coup d'œil incrédule. On y va tous les deux ? Pourquoi ? Tu voudrais qu'il nous donne un chauffeur en plus ? À l'instant où je regagne mon bureau, le téléphone sonne. C'est Stavropoulos. Le tireur était à 3 mètres environ, à la même hauteur que la victime. La balle est entrée par l'omoplate gauche et a troué le cœur. La mort a été immédiate. Un travail de pro. S'il avait tiré d'en haut, depuis le toit du gymnase, je dirais oui, sans réserve. Mais tirer à distance moyenne et depuis le même niveau est plus facile. Je ne peux pas répondre. Sais-tu quelle arme il a utilisée ? La prochaine fois, tu confieras l'autopsie au service de balistique et moi, je m'occuperai de l'arme. Et il raccroche. La maison de Thanassis Lakodimos est une forteresse. De hauts murs protègent l'habitation des regards. Le portail blindé, muni d'un guichet, a de quoi rendre jalouse une porte de prison. Papadakis sonne et le guichet s'ouvre sur deux yeux qui nous inspectent. Commissaire Caritos et commissaire adjoint Papadakis, nous avons rendez-vous avec monsieur Lakodimos, dis-je aux yeux braqués sur moi. Le portail s'ouvre juste ce qu'il faut. Le propriétaire des yeux, genre haltérophile matiné de dompteur, referme aussitôt derrière nous. « Il faut que je vous fouille », dit-il d'un ton sans réplique. « Nous ne t'avons pas dit que nous sommes de la police », dis-je en m'efforçant de garder mon sang-froid. « On m'a dit que tous ceux qui entrent ici, je dois les fouiller. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas des terroristes déguisés ?»« Regarde nos papiers. »« Pas de papiers », dit-il sèchement. « Ouvre ou on s'en va », dis-je, du ton du flic qui ne plaisante pas. Le type me regarde, je poursuis. « Demain matin, j'envoie une convocation d'urgence à ton patron qui devra venir se faire interroger à la sûreté. Garde du corps et vigile sont interdits là-bas. Toi et tes autres chiens de garde, vous l'attendrez dehors. »« Un instant, je vais demander », dit l'homme. Il saute sur le téléphone. C'est la première fois que le centre de décision dans son cerveau fonctionne aussi vite. La vulgarité grecque dans toute sa splendeur, me dis-je. Des remparts, des portails blindés, des vigiles, et personne pour penser à informer le gorille de l'entrée que des flics vont se pointer. Comme dans nos ministères où tout fonctionne électroniquement, mais où pour finir, il n'y a personne pour vous fournir le moindre papier. Montez l'escalier, dit le vigile, quelqu'un vous recevra en haut. Si l'on s'attendait à voir un château médiéval, on s'est trompé. Je trouve devant moi une villa toute blanche, à étages, entourée d'un jardin qui semble dessiné par un paysagiste frimeur. Rosiers de toutes couleurs, tournesols, plantes exotiques apparemment venues d'Afrique, d'où émergent un oranger sauvage, un pommier et un poirier, plantés là comme pour surveiller le reste. Nous montons les marches, traversons une vaste terrasse et entrons dans la villa. Devant nous, une grande salle où les rares meubles sont collés au mur, comme si l'on se préparait pour un bal. Nous sommes reçus par une Asiatique à l'âge indéfinissable. « Entrez, monsieur attend-vous, » dit-elle. Nous la suivons dans un escalier en colimaçon et entrons dans une pièce où le maître de maison nous reçoit, debout derrière son bureau, devant une baie vitrée qui donne sur la mer. « Veuillez m'excuser pour le malentendu, » dit-il après les présentations. J'avais donné des instructions, mais le personnel n'a pas informé l'accueil. Les mesures de sécurité sont impressionnantes, monsieur Lakodimos, dis-je. La question est de savoir si elles suffisent. Comment ça ? J'ai peur, monsieur le commissaire. J'ai peur de mettre le nez dehors. J'ai peur de marcher dans la rue. J'ai peur d'aller manger dans une taverne. Un jour, quand je sortais du Parlement, on m'a lancé des yaourts. Je me suis fait agresser dans une manifestation et je me suis retrouvé à l'hôpital pour quelques heures. Dans une taverne, on m'a insulté. Quand on pense que j'ai subi tout cela du temps de l'euro, vous imaginez ce qui m'attend avec la drachme. Je me suis donc enfermé chez moi. J'ai mis des gardes partout pour me sentir tranquille. Il attend une réaction de ma part, en vain. Les mésaventures d'un député ou d'un ministre n'intéressent en rien le policier qui n'est pas en service et sait qu'il ne sera pas payé les prochains mois. Ne voyant pas venir la réponse, il poursuit. « Voulez-vous que je vous dise ? C'est injuste, monsieur le commissaire. Nous avons commis des erreurs, sans doute, mais nous avons beaucoup donné au pays. Maintenant, on nous accuse de l'avoir coulé. D'accord, Mais avant qu'il coule, nous l'avons redressé. Nous avons augmenté les salaires et les retraites. Nous avons créé des emplois. On vient nous dire que tous ces gens étaient nos clients parce qu'ils étaient dans la fonction publique. Les emplois publics ne sont-ils pas des emplois? Tout l'argent qui est entré dans les caisses de l'État, nous l'avons distribué aux citoyens. Si les gens ont mal géré leur argent, est-ce notre faute? Était-ce à nous de leur imposer un mode d'emploi? Est-ce notre faute si nous n'avons plus rien à leur donner? Il se rend compte soudain que je ne suis pas venu pour écouter sa sainte indignation. Il revient au présent. Mais vous n'êtes pas là pour entendre mes plaintes. Ce qui m'amène, c'est le meurtre de Hierasimos Demertsis. Il hoche la tête, accablé. Le malheureux. Savez-vous depuis quand nous étions amis? Depuis l'occupation de Polytechnique. Ensemble à Polytechnique, ensemble à la police militaire. Nous ne sommes pas des fils de famille, monsieur le commissaire. Nous voulions changer la Grèce et nous avons été les premiers à payer le prix. Je m'efforce de le ramener à son sujet. Je vais vous parler ouvertement, monsieur Lakodimos. Il y a deux explications possibles à ce meurtre. La première, c'est l'acte terroriste. La seconde, ce serait que quelqu'un avait une bonne raison de le tuer. Si vous voulez, mon avis, le terrorisme est plus probable. Mais cela n'est pas nécessairement l'acte d'un groupe. Nous en sommes au point où n'importe qui vous tue parce qu'il pense que cela va amener la révolution ou la dictature, selon ses opinions. Je viens à vous dans l'espoir d'en savoir plus, sachant que vous avez fait affaire avec lui au moment des Jeux. Non. Je vous en prie, nous n'avons pas fait affaire, répond-il vivement. La société de Hierasimos a obtenu les travaux à la suite d'une adjudication régulière. Les gens racontent n'importe quoi. En fait, nous nous connaissons tous, plus ou moins. Nous faisons tous partie de la génération qui a changé la Grèce. Nous nous connaissons, nous sommes amis à l'occasion, mais ne parlons pas de magouilles, monsieur le commissaire. Je suppose que vous connaissez aussi Petrakos, bien entendu, depuis la police militaire, puisque c'est là que vous voulez en venir. Il rit et poursuit. Petrakos n'avait rien à voir avec la torture. Il travaillait dans l'administration. Il a été le seul à donner des informations exactes à nos familles, le seul à donner des conseils. Et il l'a fait au risque de se retrouver avec nous. Il attend la question suivante, mais je n'en ai pas. Si Demertsis n'avait pas pris une balle dans le dos, je serais presque sûr qu'il s'agit d'un suicide. Lakodimos, voyant ma gêne, reprend le fil. Je ne suis pas policier, mais à votre place, je chercherai du côté des terroristes. Très franchement, je ne vois pas qui pourrait haïr Hierasimos au point de vouloir le tuer. Maintenant, s'il s'agit d'un acte terroriste, les auteurs vont très probablement continuer. Hierasimos n'est peut-être que la première victime. Je pense qu'il n'a pas tort. Il faudra que je demande à Gonatas de s'occuper plus systématiquement de l'affaire. J'abandonne l'idée de le questionner sur le fils d'Emerdis et je me lève. Merci de m'avoir consacré tout ce temps, monsieur. J'espère que vous allez trouver l'assassin, monsieur le commissaire. Cette mort a été une grande perte pour moi. L'Asiatique nous attend au bas de l'escalier. Le vigile nous ouvre le portail et nous laisse passer sans un mot d'adieu. Ton avis ? Dis-je à Papadakis tandis que nous montons en voiture. Cet homme se barricade parce qu'il a peur. Et quand on a peur, c'est qu'on a quelque chose à cacher, monsieur le commissaire. Jusqu'à présent, que ce soit avec le personnel de la société, le fils qui m'a révélé les zones d'ombre du père ou Lakodimos qui l'a couvert de fleurs, je n'ai pas avancé d'un pouce. Alors, essayons de suivre le gros bon sens de Papadakis, on ne sait jamais. Mais je n'ai pas l'intention de m'attarder avec Lakodimos. Revenons à Petrakos, cet ancien de la police militaire dont je ne sais que faire.
Merci beaucoup, Petros Markaris et Noémie Sauvage. Merci pour ce beau dialogue. Et puis, merci à Baptiste Roussillon pour ses lectures.